VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous. Après le journal, le magazine Carrefour avec Camille Gros-Didier, mais tout d'abord l'actualité. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée ce matin à Bangui pour une visite de 36 heures en République centrafricaine. Des rencontres sont prévues avec les autorités de la transition, les hauts responsables de la mission de l'ONU, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. Rappelons que la RCA est confrontée depuis mars 2013 à un cycle de violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et de nombreux déplacés. En Côte d'Ivoire, la défense de Simone Gbagbo envisage d'introduire un pourvoi en cassation après la lourde condamnation ce mardi de l'ex-première dame par les jurés de la cour d'assises d'Abidjan. Madame Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été condamnée à 20 ans de prison pour son rôle durant la crise post-électorale de 2010-2011. Ses avocats ont dénoncé ce qu'ils appellent un procès politique. Jacques Aristide a joint l'un d'entre eux, Maître Rodrigue Dadji.
Je ne suis pas surpris et en même temps je suis déçu. Parce que la justice ivoirienne n'a pas été à la hauteur des attentes. Elle a montré une fois de plus qu'elle était une justice aux ordres du pouvoir ivoirien. Et on pourrait dire à la limite que c'est carrément une justice des vainqueurs. C'est une décision politique qui a été rendue. Ce n'est pas une décision judiciaire. Si ça avait été une décision judiciaire, Mme Gbagbo aurait été totalement acquittée. Parce que ce procès-là a permis la manifestation de la vérité. Ça a été un procès public et tout le monde a pu y assister, y compris les journalistes. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de fait précis reproché à Mme Gbagbo, il n'y a aucun élément de preuve. Dans un procès pénal où il n'y a pas de fait précis, où il n'y a pas d'élément de preuve, on ne condamne pas.
Comptez-vous alors, Maître Dadji, faire recours?
Bien sûr, nous allons exercer le recours. On a 5 jours pour exercer le recours et je peux vous rassurer que les avocats de la défense feront bel et bien un recours contre ces décisions-là qui sont complètement aux antipodes du droit et de la manifestation de la vérité.
Maître Rodrigue Dadji, l'un des avocats de Mme Gbagbo, joint à Abidjan. Au Gabon, les usagers de la toile et du téléphone à l'international ont été gravement perturbés durant 24 heures. Gabon Télécom dénonce un acte de sabotage. Les explications, Salwa Diafari.
Aussitôt sorti de la crise provoquée par une grève de 2 semaines, Gabon Télécom se voit contraint de s'expliquer de nouveau. Un nouveau problème, un acte de sabotage, selon ses dires. Une attaque qui a visé, selon le fournisseur d'accès Internet, un câble de fibre optique dans un quartier de Libreville. Vers 4 heures du matin dans la nuit du lundi, des individus auraient saboté le câble sous-marin SAT-3, faisant en sorte que le trafic international, l'Internet et les autres transmissions de données soient perturbés, explique l'opérateur télécom. Le rétablissement total du réseau devrait prendre 2 à 3 jours. Les Gabonais s'étaient déjà retrouvés quasiment coupés du monde durant 48 heures, les 25 et 26 février, lorsqu'une grève déclenchée par une partie du personnel de Gabon Télécom avait interrompu la fourniture du service Internet.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Des témoins rapportent avoir entendu une forte explosion dans la ville nigériane de Maïdougouri, où plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 140 blessés dans des explosions samedi. Selon un correspondant de la VOA, l'explosion s'est produite peu après 16 heures heure locale et semblait avoir frappé une zone de marché dans la ville. Il dit que la police n'a pas permis aux journalistes de se rendre sur les lieux. Des témoins affirment également que Boko Haram a attaqué la ville de Ngamdou dans l'état de Borno mardi. Selon Reuters, plus de 10 personnes ont été tuées. Le Comité international de la Croix-Rouge s'inquiète d'une crise humanitaire généralisée dans la région du lac Tchad, où opèrent des centaines de milliers de combattants du groupe islamiste nigérien Boko Haram. La situation se détériore au Nigeria et dans les pays voisins, le Tchad, le Niger et le Cameroun, déplore le CICR. Nicolas Pino a joint Jean-Yves Clémenceau, il est le porte-parole Afrique du CICR.
C'est une crise qui a une dimension régionale, qui ne touche pas que le Nigeria, mais aussi les pays voisins, le Cameroun, le Niger, le Tchad, où il y a de nombreux déplacés. Ces déplacés ont souvent quitté leur domicile sans rien. De plus, ils vivent dans des endroits où il y a peu de services de base, où les communautés résidentes sont déjà affaiblies et on a des soucis. On demande à ce stade surtout de pouvoir avoir accès sur place. Donc on mène déjà de l'aide, des distributions de nourriture dans certaines zones. Et on aimerait avoir plus d'accès pour pouvoir venir en aide à ces populations.
Quelle est par exemple la situation au Niger ?
Alors au Niger, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, il y a à peu près 100 000 déplacés, réfugiés du Nigeria dans la région de Difa. Donc c'est un poids lourd hein, pour les populations résidentes. Ces déplacés ont besoin de nourriture, ont besoin de biens essentiels de base. Et évidemment, c'est inquiétant. On est en train de mener une opération de distribution de nourriture pour 8000 personnes. C'est déjà une contribution, mais c'est pas suffisant.
Jean-Yves Clémenceau du CICR, joint à Genève. En Égypte, un bâtiment de la police dans le Sinaï a été la cible d'un kamikaze dont la voiture était bourrée d'explosifs. L'attaque qui s'est produite à l'aube ce mardi a tué un civil et fait 24 blessés parmi les policiers. L'attaque n'a pas été revendiquée immédiatement. Les militants islamistes sont souvent accusés d'être à l'origine d'attaques répétées dans le Sinaï. Ces attaques se sont multipliées depuis que l'armée a déposé le président islamiste Mohamed Morsi. C'était en 2013. Une bombe artisanale avait déjà tué hier soir 3 soldats près d'El Arish.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Colère de la Maison-Blanche après la lettre envoyée par les 47 sénateurs républicains aux dirigeants iraniens. Le vice-président américain Joe Biden a vivement réagi ce mardi contre ceux qui veulent saper, selon lui, l'autorité de Barack Obama. Le point, Nicolas Pineau.
Dans un communiqué, Joe Biden explique que cette missive envoyée à la République islamique d'Iran est conçue pour saper un président en exercice à mi-chemin de négociations internationales sensibles. Elle est indigne d'une institution que je révère, tranche le vice-président américain. Dans cette lettre envoyée hier, les 47 sénateurs républicains avertissent Téhéran que tout accord sur le nucléaire iranien devra recevoir l'aval du Congrès à Washington, le seul à même de pouvoir lever définitivement les sanctions américaines. Ce texte est une mise en garde sans valeur juridique, avait répliqué dès lundi le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui n'y a vu que de la propagande. Le département d'État a fait savoir que le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, reverrait son homologue iranien dimanche à Lausanne, en Suisse, pour un nouveau cycle de négociations après celui de Montreux la semaine dernière.
Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a encore réagi aujourd'hui à cette lettre des 47 sénateurs républicains en disant qu'elle pourrait suggérer que l'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. S'adressant à la très influente Assemblée iranienne des experts, il a dit que cette lettre était sans précédent et peu diplomatique. Les États-Unis se sont attirés aujourd'hui les foudres de Cuba après les nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela. C'est le premier clash public entre Washington et la Havane depuis que les deux pays ont annoncé en décembre dernier des pourparlers sur le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Dans un communiqué officiel, Cuba a qualifié la décision du président américain Barack Obama d'arbitraire et d'agressif. La sanction prise hier vise 7 hauts fonctionnaires vénézuéliens que les États-Unis accusent d'avoir violé les droits de l'homme, de s'être rendu coupable d'actes de corruption également. Parmi les fonctionnaires vénézuéliens figurent le chef des services de renseignement et le directeur de la police nationale. Les forces irakiennes ont repris aujourd'hui la localité d'Al-Alam, située près de Tikrit, la cible de leur offensive actuelle pour déloger le groupe État islamique du fief de l'ex-dictateur Saddam Hussein. « Nous voulons qu'Al-Salam serve de tremplin pour la libération de Tikrit et de Mossoul », a déclaré le maire de cette localité. Et puis, accrochage aujourd'hui entre étudiants et policiers dans une ville du centre de Myanmar, où les autorités ont depuis une semaine empêché les manifestants de descendre sur Rangoon pour réclamer des réformes sur l'éducation. Selon un des meneurs du mouvement, la police a arrêté une trentaine de personnes. Quelques heures auparavant, les leaders étudiants avaient dit que le gouvernement leur avait permis de se rendre à Rangoon. On termine ce journal avec du sport. En Europe, football, on joue les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Avec 2 buts d'avance, le Real de Madrid reçoit Schalke 04. Les coéquipiers de Ronaldo peuvent légitimement entrevoir la qualification pour les quarts de finale après leur succès sur la pelouse de Guerre. Gelsenkirchen. Autre rencontre, le FC Porto accueille le FC Bâle après le bon match nul obtenu en Suisse. 1-1 à l'aller. Et puis, football africain avec la CAN des moins de 20 ans. C'est la journée de repos aujourd'hui dans ce tournoi. Hier, dans le groupe B, le Ghana a bien entamé la compétition en battant l'Afrique du Sud par 2-0. Ce sera tout pour aujourd'hui. Tout à l'heure, prochaine escale, le magazine Carrefour, c'est avec Camille Grosdidier.
Soyez au